L'entretien du 18h, et bien pour cet entretien, nous partons en Ukraine, où le conflit semble entrer dans une nouvelle phase depuis les frappes intensives de ce week-end et les frappes russes sur la région de Koursk. Dans la foulée, Joe Biden a autorisé hier la vente de missiles américains à longue portée aux Ukrainiens pour se défendre. On en parle avec Gérard Vespierre, que Lucie Gilson a eu le plaisir de pouvoir interroger. Gérard Vespierre, pour mémoire, géopolitologue et fondateur du Monde Décrypté. Voici l'avis de Gérard Vespierre.
Bonjour Gérard Vespierre.
Bonjour à vous.
Vous êtes géopolitologue et fondateur du site d'information Le Monde Décrypté. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, le président Biden a autorisé pour la première fois l'armée ukrainienne à utiliser des missiles américains pour se défendre sur le front de Koursk en Russie, où l'armée ukrainienne est en difficulté depuis plusieurs mois. C'est la première fois que ça arrive en 2 ans de guerre. Donc ma première question, Gérard Vespierre, est-ce que d'abord, quel genre de technologie il s'agit, et est-ce que ça pourrait marquer un tournant dans cette guerre ?
Écoutez, c'est une évolution qui intervient en parallèle avec le changement qui vient de se passer en Russie, c'est-à-dire l'arrivée de soldats nord-coréens. Donc il faut effectivement placer cette évolution de décision américaine comme une réponse à la décision russe de demander à son satellite, car la Corée du Nord n'est pas un pays indépendant. La Corée du Nord a été créée en 1945 par l'URSS. La Corée du Nord a été ensuite armée par l'URSS pour lancer son invasion de la Corée du Sud et la guerre de Corée en 1950. Donc on a affaire à un satellite de la Russie-URSS qui a été requis pour venir sur le front en Europe. Alors, en parallèle donc à cette évolution stratégique russe, il y a cette évolution stratégique américaine. Concernant la technologie, c'est le même véhicule qui lancera les missiles ATACMS et qui a lancé depuis 2 ans les missiles IMARS. Donc c'est le même véhicule, il y a que le conteneur maintenant, la logistique est devenue un élément très très important dans la technologie des frappes et les armements sont conteneurisés sur un camion porteur. Donc on change le conteneur, pour les IMARS le conteneur contient 6 missiles, pour les ATACMS il contient 2, voire un seul missile. Quand il y a 2 missiles, la portée est à 160 km, ils sont plus petits. Quand il n'y a qu'un seul missile plus important, toujours de même longueur mais plus large, à ce moment-là, la portée peut atteindre 300 km. Voilà pour les éléments.
Donc ça veut dire que ça va significativement renforcer les capacités de l'Ukraine, les capacités de frappe de l'Ukraine, donc, si je comprends bien.
Absolument. Et deuxièmement, donc ça permet effectivement une allonge plus importante et dans une situation stratégique qui est particulièrement favorable pour les Ukrainiens et défavorable pour la Russie. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que s'il y a vraiment, et apparemment les chiffres convergent, 50 000 hommes autour de ce que l'on pourrait appeler la poche de Koursk que les Ukrainiens donc ont établi, il y a à peu près une surface de 500 km² contrôlée par les forces ukrainiennes à l'intérieur de la Russie. Donc ce n'est pas beaucoup, 500 km². C'est ça correspond à un rectangle de grosso modo 30 km de long sur 17 km de large, voyez-vous. Ce n'est pas grand-chose. Et 50 000 hommes autour de cette petite surface-là, c'est une densité qui est absolument énorme, qui est proportionnellement pratiquement 10 fois plus importante que la densité sur le grand de l'Est qui va de Donetsk à Kherson. Donc il y a une concentration de troupes russes et nord-coréennes, donc qui dit concentration, eh bien dit effectivement possibilité d'être atteint par des frappes de grande précision. C'est exactement ce à quoi les IMARS et ATACMS correspondent.
Alors j'aimerais maintenant évoquer si on peut analyser peut-être les intentions de la Russie qui, vous l'avez dit, a intensifié ce week-end ses attaques aériennes visant notamment les infrastructures énergétiques de l'Ukraine. L'objectif, c'est de démoraliser les troupes et les civils déjà éprouvés par 2 ans de guerre en coupant l'électricité au commencement de l'hiver, ou c'est quelque chose d'autre ?
Non, je pense que effectivement, c'est hélas, une action, psychologique et guerrière de la part de la Russie pour affaiblir le moral. Nous savons, et il n'y a pas mystère, les chiffres sont incontournables, que maintenant réduit à une population de une trentaine de millions d'habitants résidant en Ukraine, donc on doit diminuer des 45 initiaux, ou bien ceux qui sont dans les terres conquises par les Russes, et puis il faut enlever effectivement la population qui s'est réfugiée à l'extérieur d'Ukraine. Donc il y a une grande difficulté pour l'Ukraine de mobiliser de nouvelles ressources humaines, de mobiliser de nouveaux soldats, et ces frappes sont destinées effectivement à rendre ce recrutement psychologiquement encore plus difficile.
Est-ce que ça pourrait être aussi également compris comme une manœuvre russe pour expédier cette guerre, la fin de la guerre, si je puis dire ?
Bien, écoutez, dans la mesure où toute guerre a connu une fin, il y a impérativement des négociations qui un jour débuteront et auront lieu. Donc il y a tout à gagner pour les Russes d'essayer, en tout cas, d'avoir des positions plus favorables avant le lancement et le début de ces pré-négociations ou négociations, d'où effectivement à la fois les frappes en Ukraine et deuxièmement essayer de reprendre et de supprimer la poche ukrainienne à l'intérieur du territoire russe.
Alors, au lendemain de ces attaques, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a affiché son soutien à l'Ukraine. Elle a déclaré que l'Ukraine pouvait compter sur l'Union européenne après ces horribles attaques russes qui ont ciblé son réseau énergétique et fait 10 morts. Est-ce que c'est un vœu pieux ou il faut-il s'attendre à un renouveau de l'afflux de l'aide européenne pour l'Ukraine ?
Renouveau, je crois qu'il y a un flux permanent économique et militaire. Donc il s'agit effectivement de maintenir ce flux et de l'ajuster en termes d'emploi vis-à-vis de la situation qui évolue, donc des destructions qui sont très ciblées sur le réseau énergétique. Donc que peut faire l'Europe pour aider au rétablissement de ses capacités et apporter des moyens complémentaires éventuellement, et de pouvoir sur le plan deuxièmement militaire de fournir le plus rapidement possible les munitions et les armements qui sont promis.
En parallèle, la semaine dernière, l'Union européenne a annoncé des coupes budgétaires drastiques, notamment dans l'aide extérieure. Est-ce que ça pourrait aussi affecter l'Ukraine ?
Je ne crois pas que ce soit le moment si effectivement on veut mettre les paroles européennes en harmonie avec l'action européenne. S'il y a des économies à faire, elles doivent être regardées sur d'autres zones, sur d'autres fronts, mais certainement pas sur le front ukrainien. En tout cas, faut l'espérer.
Alors aujourd'hui, Volodymyr Zelensky, aujourd'hui au sens large, Volodymyr Zelensky a également appelé, il a également déclaré que la guerre en Ukraine devait prendre fin en 2025. Vous pensez que ce timing est viable, potentiellement réalisable?
Oui, en tout cas, des débuts de négociations, très certainement. Et il faut dire des deux côtés, parce que il y a une capacité évidente, et dont on connaît bien, de la Russie à avoir une propagande politique et médiatique très très puissante, donc qui masque la réalité économique russe. Si effectivement les cours du pétrole continuent à baisser, si le cours du pétrole repasse sous les $70 le baril, cela va être très difficile pour les recettes russes. Et deuxièmement, en ce qui concerne la situation économique, le rouble continue de s'affaiblir. Pour contrecarrer cela, la Banque centrale a monté le taux d'intérêt à 21%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que cela représente. Nous souffrons avec des taux de 3 ou 4. Donc, il est évident que la situation économique russe est difficile. La bourse de Moscou, n'est-ce pas, a perdu 55% de sa valeur depuis le début de l'opération en Ukraine.
Eh bien, Gérard Vesper, je vous remercie pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes géopolitologue et fondateur du site d'information Le Monde Décrypté. Merci beaucoup et à bientôt.
Merci. Bonne journée à vous.